Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer ou de modérer, selon, cette session consacrée à ces pays qu'on nous donne en exemple. Excusez-moi de mon retard, c'est moi qui étais en retard. J'étais à une conférence précédente qui était à l'autre bout de la ville et qui est un peu encombrée à cette heure-ci. Ces pays qu'on nous donne en exemple, moi ça m'a fait tout de suite penser, ça m'a fait mesurer quand j'ai vu le sujet de ce débat, au fait que je suis désormais un vieux journaliste. Parce que quand j'ai commencé, on parlait déjà de pays qu'on donnait en exemple. Et à l'époque, l'exemple, c'était le Japon. Et je me souviens, mon chef qui m'a formé en compagnonnage m'a dit... le Japon, c'était un pays où on envoyait des missions d'études pour voir d'où venait cette croissance mirobolante. Et donc, mon chef m'avait dit, quand il y a moins de 3% de croissance au Japon, n'écrivez pas le mot croissance, écrivez le mot récession. Et j'ai regardé, en préparant cette session, je me suis demandé quand est-ce que le Japon avait eu 3% de croissance la dernière fois. Eh bien, c'était en 1991. Donc, les modèles tournent. Ils tournent souvent. On a eu le modèle suédois à peu près à la même période. Et puis, il y a eu une terrible crise financière au début des années 90. Et puis, ce pays a beaucoup évolué. Ces 15 dernières années, il avait des dépenses publiques qui dépassaient de 15 points celles de la France. Maintenant, c'est pratiquement au même niveau. Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que ça n'en est pas un? Je ne sais pas. Nous avons eu ensuite le modèle plus récemment, le modèle espagnol, le modèle irlandais, ces pays avec des croissances extraordinaires. L'Irlande, il y a 20 ans, avait un revenu par tête qui était sensiblement inférieur à ce qu'il était en France et il dépassait, il y a 2 ans, de 25% le niveau moyen français. Et donc l'Irlande, c'est un pays extraordinaire, avec un dynamisme qu'on nous vantait sans arrêt. Et on a vu que l'Irlande a connu depuis aussi certains problèmes. Et puis il y avait un autre modèle, alors celui-là qui domine depuis des décennies, hein, qui est évidemment le modèle américain. Le modèle américain, avec son marché du travail extrêmement réactif, avec son dynamisme entrepreneurial, avec sa capacité d'innovation sans pareil. Mais quand on regarde ce qui s'est passé sur ces dernières années, avant même la crise économique et financière que nous vivons depuis 3 ans, eh bien, on se rend compte que la performance économique, au stricto sensu, telle qu'elle est mesurée par le PIB des États-Unis, n'est finalement pas très différente de celle de l'Europe, une fois qu'on a enlevé un certain nombre de facteurs, qui sont des facteurs assez classiques, à commencer par la croissance démographique. Donc, les modèles, je me souviens même qu'il y a eu un temps où la France était un modèle. C'était au début des années 2000. La France avait eu 3% de croissance depuis 3 ans, c'était les 3 mini-glorieuses, et j'étais au Forum économique mondial de Davos, et il y avait une session qui était titrée, je me souviens très bien, « La France était un modèle ». Alors, moi à Davos, j'y vais pour voir plein de gens qui viennent du monde entier, donc je ne me suis pas concentré sur cette séance, mais je me suis même renseigné sur ce qu'elle avait donné, et on m'a dit « Ah, elle a été annulée ». Alors, j'avais demandé pourquoi, on m'avait dit qu'il n'y avait que 5 inscrits et c'était tous des Français. Voilà, donc la notion de modèle, toute relative, mais alors il y a même un modèle qui revient, et c'est sur celui-là que nous allons concentrer la première partie de cette session avant vos questions. Et ce modèle, c'est évidemment l'Allemagne. Je ne parle pas du football, hein. Vous savez qu'un footballeur anglais... Gary Lineker avait défini le football comme un jeu simple où 22 hommes courent après un ballon durant 90 minutes et à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Ça c'était dans les années 80. Aujourd'hui c'est un peu différent et on l'a vu récemment. En revanche, en économie, eh bien, le modèle allemand revient très très fort dans le débat en France. J'avais fait moi-même un petit match dans Les Échos il y a 6 mois sur le match France-Allemagne que j'avais... résumé par un score de foot, hein, qui était donc 3-1, 3 pour l'Allemagne, 1-1 pour la France. Mais il y avait même un chiffre qui était assez impressionnant par rapport donc, à ce modèle allemand qu'on nous donne. J'avais regardé sur les chiffres de l'OCDE la décennie écoulée, hein, donc la première décennie de l'euro, 2000-2009. Et quand on regardait donc, ce modèle allemand qu'on nous donne sans arrêt en exemple, la consommation des ménages, qui est évidemment un indicateur important, hein, puisqu'il mesure ce que nous achetons chaque année, ce que nous pouvons acheter, eh bien, on voyait que sur l'ensemble de la période, la consommation des ménages avait progressé en France de 24% et en Allemagne de 6%. Donc, le modèle allemand, oui, mais il faut aller beaucoup plus avant pour savoir ce qu'est exactement le modèle allemand, pour savoir si on peut s'en inspirer, pour savoir si ce n'est pas un modèle de passager clandestin, c'est-à-dire un modèle, si tout le monde fait pareil, ça ne marchera pas, parce que ça serait tout simplement économiquement intenable. Et pour en discuter, nous avons deux intervenants passionnants. Je vais commencer par présenter Michel Debonnet, qui est inspecteur général des finances, qui est économiste, qui a travaillé à l'INSEE, qui a travaillé comme économiste de banque à Indosuez, qui a travaillé aussi au Plan, qui a beaucoup réfléchi sur les services à la personne, ce qui l'a amené au cabinet de Jean-Louis Borloo quand il était ministre de l'Emploi, et elle a publié à partir de cette réflexion un essai visionnaire qui s'appelle « L'espoir économique vers la révolution du quaternaire » en 2007, où elle racontait comment va émerger un nouveau secteur, comme avait émergé l'industrie, puis ensuite les services, et comment va émerger un nouveau secteur économique qui combine à la fois l'industrie, les services et toutes les technologies de l'information. Et nous avons aussi donc Paul Van den Noord, je ne sais pas si je prononce bien votre prénom, ça n'est pas grave, ça n'a aucune importance, merci. Vous êtes un économiste néerlandais, vous travaillez à l'OCDE, vous êtes conseiller économique auprès du chef économiste au département des affaires économiques de l'OCDE, pour dire qu'il y a beaucoup d'économies dans vos activités. Vous êtes arrivé à l'OCDE il y a plus de 20 ans, vous avez passé récemment 3 ans à Bruxelles pour travailler sur la crise financière et sur la zone euro, et puis auparavant, vous avez été enseignant à l'université d'Amsterdam, et vous êtes spécialiste des questions budgétaires, et je propose que vous commenciez par présenter votre vision du modèle allemand.
Bien que le texte là est en anglais, je vais quand même essayer de m'exprimer en français. J'avais pas le temps de traduire ma présentation. Les pays européens ont affiché des réactions très diverses à la crise. Premier constat. L'Allemagne a été frappée plus durement que la France, étant donné son exposition plus importante au commerce international, mais aussi dû aux pertes de capital qu'ont enduré ces investissements internationaux. Des investissements internationaux qui, dans le cadre de l'Allemagne, étaient conséquents. L'Allemagne avait pris pour habitude de maintenir une balance de paiement largement positive, donc un excédent commercial, la transformant en créditeur international majeur. Et le pays a aussi développé un engouement pour les produits toxiques comme les subprimes et les céréaux, etc. Donc, d'abord, le premier constat, l'Allemagne a été frappée plus durement. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que sa reprise, elle aussi, était plus prononcée que celle observée dans d'autres pays européens. Avec un deuxième trimestre de cette année, très fort, grâce à une forte demande par le pays émergent en Asie. Donc, sur le graphique, vous voyez bien qu'effectivement, la petite plonge là, vers la fin, en Allemagne, est plus profonde que celle de la France. Mais si l'on regarde la situation sur le long terme, on se rend pourtant compte que la croissance en Allemagne et en France ne sont pas si différentes. Et que la France s'en sort même légèrement mieux que son partenaire d'outre-Rhin depuis l'introduction de la monnaie unique en 1999, ce qui explique peut-être le fait que la France, à un certain moment, a été modèle. Donc ça, c'est le premier constat. En revanche, la situation de l'emploi est bien meilleure en Allemagne. La récession n'a eu qu'un impact mesuré sur le chiffre de chômage. L'Allemagne très vite redécouvre une tendance sous-jacente à la baisse du chômage qui avait fait son apparition vers 2005 déjà, comme vous pouvez le constater. Donc,
en Allemagne, le chômage baisse depuis 2005.
Micro. On change
de micro.
C'est peut-être mieux. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Ce qui est frappant peut-être aussi, ce qui est remarquable même, c'est que ce meilleur taux de chômage en Allemagne a été accompagné d'une forte augmentation de la participation au marché du travail qui a déjà débuté aux années 80, comme vous voyez là. Donc il y a une forte divergence entre les deux pays au niveau de l'offre de main-d'œuvre. Donc, l'Allemagne a non seulement réussi à réduire le chômage, mais aussi à créer suffisamment d'emplois pour absorber la soudaine augmentation de l'offre de main-d'œuvre. Mais, étant donné que la performance allemande en matière de croissance est similaire sur le long terme à celle de la France, la productivité par travailleur a dû baisser, bien sûr, et elle a, en effet, baissé légèrement. Donc là, on a le PIB par travailleur. Et effectivement, on voit que l'Allemagne a pas la même performance que la France, qui est bien meilleure au niveau de la productivité. Ça va peut-être un peu à l'encontre des idées reçues, mais justement mon but, si vous voulez. Donc en Allemagne, on observe un taux de chômage inférieur, une croissance de productivité de la main-d'œuvre légèrement inférieure et une forte augmentation de la participation au marché du travail. Et en revanche, comme Michel a déjà évoqué, la démographie est plus dynamique en France qu'en Allemagne. Et ça, c'est un facteur positif qui explique pourquoi le PIB français est plus dynamique que celui de l'Allemagne. Mais le PIB par tête français traîne, du coup, ce qui est tout de même un peu inquiétant. Comme vous voyez là, effectivement, le PIB par tête en Allemagne est plus élevé que celui de la France. Oui, c'est pas
la question. Posez-moi sur le menton.
D'accord. Comme ça. Ok. Comme des chanteurs pop. Hein.
Voilà.
Ok. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'Allemagne a aussi tiré des revenus croissants des exportations, un changement qui est souvent perçu comme la cause de sa performance récente, mais qui est en fait de longue date et qui, comme nous l'avons vu, a aussi rendu le pays plus vulnérable face à la crise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, la part des exportations en termes de PIB a explosé ces 10 dernières années, alors qu'en France, elle a stagné. Donc, vous pouvez voir là, ça s'explique en partie du fait que l'Allemagne a orchestré, créé une dévaluation compétitive en limitant l'augmentation des salaires. Mais en fait, la vérité est que la part des exportations mondiales allemandes n'a que très peu augmenté et que celle de la France a subi une chute libre depuis son entrée dans la zone euro. Donc il est plus exact de dire que depuis l'introduction de l'euro, la France a perdu sa compétitivité, alors que cela n'a pas été le cas de l'Allemagne. Ceci est confirmé aussi par les évolutions des salaires réels. Bon, on voit ici les salaires réels en France ont continué à augmenter, Pardon, ça c'est la consommation, mais ça, ça montre à peu près la même chose que vous avez déjà évoqué. En France, la consommation a continué à augmenter, tandis qu'en Allemagne, elle stagne depuis quelques temps, déjà même depuis 10 ans, quelque chose comme ça. Donc, voilà. L'autre graphique que je voulais montrer, c'est celui-là, c'est le balance des paiements courants. En France et en Allemagne, en pourcentage du PIB. Et notez que la balance des paiements courants est très cyclique en Allemagne. Après le choc OPEC 2, donc en 1979, la balance est entrée en excédent, alors que la consommation en Allemagne s'ajustait aux conditions adverses découlant du choc OPEC 2. Après, c'est alors que le choc de l'unification a frappé, ce qui est en 1990, ce qui a un choc positif sur la demande intérieure et que la balance est entrée en déficit majeur, comme vous voyez là. Une fois entrée dans l'union monétaire, l'Allemagne a transformé son déficit en excédent considérable. Et notez que ce phénomène reflète en partie une correction du boom découlant de la réunification. Mais on pourrait dire que l'Allemagne est allée trop loin au détriment d'autres pays européens en leur créant autant des parts de marché. Maintenant pour les explications. L'Allemagne s'est donc sortie de son pétrin post-unification en augmentant ses exportations et la performance de son marché de travail a elle aussi profité d'une nette amélioration. Quel est donc ce modèle allemand qui semble si bien porter le pays? Mais il y a trois éléments classiques de réponse à cette question. D'abord, les rapports entre les partenaires sociaux. En Allemagne, la fixation des salaires est coordonnée de façon à protéger la compétitivité sur la scène internationale. Cela s'explique peut-être par l'indépendance de la politique monétaire de la Bundesbank suite à la guerre. Politique ciblant la stabilité des prix. Et dans un environnement où l'inflation est faible, les syndicats peuvent difficilement demander une hausse de salaire plus importante puisque cette activité ne passerait pas à l'aperçu. Aussi, à cause de la politique monétaire stricte en Allemagne, la demande a été contenue et du coup, le secteur privé s'est orienté vers l'exportation. Évidemment, la Bundesbank n'est plus seule maître à bord de nos jours, mais cette culture subsiste. Et c'est très différent de l'activité de syndicat français qui est davantage motivé par la certitude relative au pouvoir d'achat que par la compétitivité à l'emploi. Deuxième élément de ce modèle allemand, c'est la formation professionnelle. L'Allemagne bénéficie d'un système de formation professionnelle important. Les apprentis partagent leur temps entre formation et travail mi-temps. Syndicats, associations patronales travaillent en étroite collaboration afin de définir le contenu détaillé des formations et afin de fixer des salaires bas. Ces systèmes de fixation des salaires empêchent les employeurs de piquer les travailleurs formés, tout en éliminant le problème de profiteurs et en encourageant l'investissement dans la formation. La situation française est tout autre. Soit les jeunes travailleurs sont payés au SMIC, le salaire minimum commun à l'ensemble de la population active, formée ou non formée, ou ne travaillent pas. Une forme de système de formation s'est installée en France où les jeunes
ont droit à des emplois à rabais déguisés en stage non rémunéré. Troisième aspect du modèle allemand, c'est la gouvernance et finance d'entreprise. Dans le cas du système de gouvernance allemand, la grande entreprise dispose d'une commission de surveillance et elle effectue un suivi du conseil d'administration et elle est composée d'acteurs et d'actionnaires clés, employés, fournisseurs, acheteurs et banques. Une des caractéristiques de la propriété en Allemagne est la prévalence de la participation croisée entre les entreprises. Et cela favorise des relations sur le long terme qui encouragent à leur tour des investissements sur le long terme, y compris en matière de capital humain. L'autre caractéristique du système allemand est le secteur des petites et moyennes entreprises, fortement développé, largement centré sur l'exportation pour des raisons que j'ai déjà évoquées. Donc ces éléments permettent de comprendre en partie pourquoi l'Allemagne résiste mieux au choc que la France, la consommation s'adaptant au choc et les exportations sauvant la donne. En revanche, la chute du taux de chômage allemand semble plutôt refléter une évolution plus récente et donc mérite une explication complémentaire. À quoi doit-on ce résultat? Il s'explique sans doute par la réforme structurelle. À quel point l'Allemagne diffère-t-elle de la France à cet égard? Et ma réponse est considérablement. Ce graphique-là illustre les efforts de réforme structurelle en Allemagne et en France en 5 domaines. Le coin fiscal du travail, taxe-wedge, comme c'est indiqué là, la générosité des allocations de chômage, la législation en matière de protection de l'emploi, ce qui est indiqué en EPL, les impôts implicites sur la poursuite du travail dès 55 ans, c'est implicit tax on continued work, donc et PMR, c'est la régulation, la réglementation du marché des biens et des services. Plus on s'approche du milieu du graphique, moins contraignant la politique est pour le fonctionnement des marchés. Et vous voyez bien qu'en Allemagne, effectivement, enfin, selon ces indicateurs de l'OCDE, les marchés en Allemagne fonctionnent généralement plus librement qu'en France. Et en plus, entre 1985 et 2003, il y a eu libération plus forte en Allemagne qu'en France. En France, ça n'a pas beaucoup bougé, tandis qu'en Allemagne, on voit vraiment une réforme qui s'est déroulée. Donc le progrès allemand est supérieur à celui de la France pour l'ensemble de ces 5 domaines. L'Allemagne a assoupli la protection du travail, ce qui facilite l'embauche. L'Allemagne a aussi multiplié les incitations au travail pour les travailleurs plus âgés, alors qu'en France, on n'a pas fait. L'Allemagne a aussi fait davantage de progrès en matière d'assouplissement de la législation relative au marché des biens. Donc la comparaison de ces scores pour les pays est utile aussi pour les pays anglo-saxons et pour la moyenne de l'OCDE, là à droite, ça, ce sont les pays anglo-saxons. Vous voyez les pays anglo-saxons, là il n'y a pas de comparaison, les marchés sont tout à fait libres. peut-être libre selon vous de certains. Et vous voyez bien que l'Allemagne est relativement proche maintenant de la moyenne de l'OCDE. Donc ma conclusion, l'économie allemande a une façon bien à elle d'évoluer. La balance des paiements actuels reflète les fluctuations importantes suite au choc, les exportations souvent la mise. Les rapports entre les partenaires sociaux sont caractérisés par une attention particulière à la compétitivité et au développement des compétences. Et cependant, cela n'explique pas l'évolution du marché du travail qui nous permet d'observer une baisse du chômage, même en période difficile. Ce phénomène est probablement lié aux efforts de réforme structurelle en Allemagne. À mon avis, la France peut en tirer des leçons. Tout d'abord, les systèmes de formation professionnelle d'outre-Rhin sont plus performants que les systèmes français. Ensuite, la France pourrait suivre l'exemple allemand d'une réforme approfondie des marchés du travail et des biens. Et le fait que cela n'a pas encore produit de résultats en matière de croissance plus prononcée de la consommation en Allemagne est source d'inquiétude. Et il semblerait que, malgré tout, les Allemands se méfient de la réforme structurelle, même s'il produit déjà des résultats tangibles. Mais c'est une attitude qui pourrait évoluer. Et peut-être que cela signifie aussi que la réforme structurelle en Allemagne ne s'est jusqu'à présent pas intéressée à la rigidité des marchés de services à l'échelle nationale en Allemagne, qui pourrait être à la source d'un transfert de ressources de l'exportation vers la demande intérieure, il y a toujours moins de points. Ben voilà, l'histoire dans 20 minutes, j'espère que j'ai réussi.
Merci, merci Paul de votre effort, c'est graphique, très intéressant.